Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Député LREM de Paris, ancien président du Conseil national du numérique. Vous avez rédigé il y a quelques jours une note parlementaire très complète, elle est en ligne, on la trouve facilement, sur les outils numériques de traçage, les collectes de données mobiles qui pourraient nous permettre de retrouver progressivement une vie normale en limitant les risques de se contaminer. Est-ce qu'on peut dire d'abord qu'il n'y a pas de solution miracle, sauf à décider de mesures très autoritaires que personne ne souhaite en France ?
Oui, vous avez raison de le rappeler, vous l'avez fait avec votre précédente invitée. La première chose pour lutter contre ce virus aujourd'hui, c'est le confinement. Tant qu'on n'a pas de solution médicale généralisée que pourrait être un vaccin, aujourd'hui, il faut, et c'est ce moment un peu dur qu'on traverse tous, respecter ce confinement, et c'est tous les mots quotidiens du gouvernement, pour permettre d'accompagner les équipes médicales. Ensuite, il y a le deuxième sujet qui est comment on peut envisager de mettre fin à ce confinement. Et là, pas de solution magique. Le numérique, les possibilités offertes par le mobile ne viennent que s'ajouter aux possibilités beaucoup plus physiques et matérielles que seront un traitement, que seront des moyens dans les hôpitaux, que seront des masques, que seront le respect absolu des règles de distanciation. Donc le numérique, ça va venir ajouter quelque chose. Et donc aujourd'hui, il faut se le dire, hein, personne n'apporte la preuve que tous ces outils nouveaux sont des révolutions, y compris pour les régimes qui sont les plus autoritaires, y compris les solutions les plus attentatoires aux libertés individuelles, le pistage à domicile, la surveillance des réseaux mobiles à l'échelle globale d'un pays. Tout ça n'a pas montré son efficacité. Donc ce que j'ai voulu dans cette note, c'était faire une photographie de tout ce qui est fait dans le monde, essayer d'en voir les possibilités, les limites techniques, et de poser à chaque fois la question éthique. Parce que il y a plein de façons de faire du numérique. Le numérique, c'est pas bien ou mal. Il y a des façons démocratiques de le faire, des façons non démocratiques de le faire. Il y a des façons protectrices de le faire et des façons non protectrices de le faire.
Alors parlons de la solution que le gouvernement a mise sur la table, hein, pour l'instant. C'est une application Stop Covid qui permettrait de vous alerter si l'un de vos contacts a contracté la maladie. C'est ce qu'on appelle le contact tracing, dont on nous dit que ça ne permet d'identifier personne. Qu'est-ce qui nous le garantit ?
Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle le contact tracing, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui dans le cadre de l'épidémie, mais c'est fait à la main, avec un calepin et des questions posées à la personne. Vous savez, l'Assemblée nationale a été un des premiers clusters de la maladie. Et donc, beaucoup de mes collègues qui ont été testés positifs au mois de février, vous savez, on est encore en stade 1 et 2. En stade 1 et 2, on cherche encore à savoir qui on a pu infecter pour essayer de limiter la diffusion. Et bien là, vous avez un médecin de l'ARS qui vous appelle ou qui est dans l'hôpital où vous êtes hospitalisé et qui va vous poser des questions sur tout ce que vous avez fait les 15 derniers jours. On prend le calendrier, heure par heure, jour par jour, on essaie d'identifier où vous étiez, combien de temps vous y étiez. Les questions, elles sont aussi profondes que vous étiez à côté de cette personne à cette table, est-ce que vous étiez à sa gauche, face à elle, est-ce que la discussion était animée, est-ce que vous aviez une discussion plus collective avec d'autres personnes. C'est ça qu'on appelle le contact tracing. C'est quelque chose d'habituel dans les épidémies. C'est ce qui permet d'aller prévenir toutes les personnes qui ont pu être contaminées pour qu'elles puissent, un, elles aussi rester en quatorzaine chez elles, et deux, écouter leur corps à l'approche de premiers symptômes. Ce qu'apporte une application de contact tracing, c'est d'apporter l'exhaustivité que le numérique va permettre en enregistrant pour vous, sur votre téléphone, tous les contacts que vous avez eus avec d'autres gens pendant 15 jours, et les effacer au fur et à mesure. Et le jour où vous êtes testé positif, eh bien, vous demandez à l'application qui je dois prévenir, ou plutôt, toi, application, peux-tu prévenir toutes les personnes que j'ai rencontrées les 15 derniers jours, et là, on pourra ajouter des règles, plus de 1 heure, plus de 15 minutes, à une proximité très forte, sans qu'elle sache que c'est moi. Mmh. Et il faut savoir que dans toutes les options technologiques...
Pardon. Oui. Non, je vous en prie.
De toutes les options technologiques ouvertes, de toutes les options technologiques existantes dans le monde, le choix de l'État français et le choix des Allemands aussi a été de prendre la solution la plus protectrice, c'est-à-dire la solution qui par architecture, ce qu'on appelle en anglais « by design ». « By design » est protectrice des libertés individuelles. C'est-à-dire que cette appli ne peut pas enregistrer d'informations personnelles, ne les centralise pas dans un serveur à la main d'un gouvernement ou des autorités de police. Et elle permet ainsi de s'assurer, par son architecture, qu'elle ne peut être utilisée que dans un seul objectif, prévenir les personnes potentiellement contaminées.
Il n'y a pas de données centralisées dans ce système, dans un serveur automatisé.
Dans ce système qui porte différents acronymes et qui est aujourd'hui au cœur de recherches de plusieurs centaines de chercheurs à travers l'Europe, c'est un système décentralisé, c'est-à-dire que mon téléphone enregistre les interactions qu'il a avec l'autre, et si je suis positif et par la déclaration d'un médecin ou d'un spécialiste, on va utiliser ce qu'on appelle un identifiant temporaire de mon téléphone. C'est-à-dire que c'est pas mon nom et mon prénom qui vont être envoyés à un serveur, c'est un chiffre, un code barre un peu long, qui va être envoyé à un serveur central, et le serveur central, il va envoyer à toutes les applis de France ce code barre. Et il va dire à toutes ces applis, si vous avez dans votre base locale à vous enregistré ce petit code barre, ça veut dire que la personne qui détient ce téléphone a potentiellement été contaminée.
Donc oui, vous voyez, en fait, c'est un serveur
système
central.
Globalement. Oui, mais le serveur central n'enregistre rien. Il diffuse du haut vers le bas, mais il n'y a jamais de remontée du bas vers le haut d'informations.
J'ai compris. La question que pose aussi cette technologie, c'est est-ce qu'elle est efficace ? Ça passe par le Bluetooth, hein, c'est-à-dire fonction qui permet de reconnaître, d'établir une connexion avec des appareils à proximité. Est-ce que vous êtes sûr que ça marche pour ce type d'usage, que c'est suffisamment précis ? Par exemple, si mon voisin activait son Bluetooth de l'autre côté du mur de mon appartement, le système va sans doute considérer que j'ai un contact avec lui, non ?
Vous savez, les meilleurs experts du sujet sont eux aussi très humbles. On n'a jamais mis en place une application commerciale Bluetooth à cette échelle-là, parce qu'il n'y a que la santé publique qui permet d'envisager de faire des choses aussi importantes. Vous avez eu des annonces cette semaine de Apple et Google au sujet du Bluetooth. Les meilleurs chercheurs de Bluetooth en Europe et dans le monde sont en train de travailler sur ces sujets. La réalité, c'est que cette crise, elle est unique et que les solutions, elles sont uniques. C'est ce que je dis dans la note, il faut rester humble. Le premier pays à avoir mis en place un dispositif de ce type, c'est Singapour, mais c'était il y a 2 semaines et demie. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun retour d'expérience possible encore.
Et surtout, à Singapour, ils n'ont... Alors, j'ai pas les données les plus récentes dans votre rapport. Vous dites que ça frôle les 20% de la population. Hein, c'est ça qui a chargé
au bout de 2 semaines,
cette
avait mis
application.
Ça.
Voilà, c'est ça. C'est ce que vous dites dans votre rapport. Mais les spécialistes disent que ça ne peut marcher que si le système est adopté par un grand nombre d'individus dans une population et même une majorité... plus de 50% selon certaines études. Comment y croire ?
Là-dessus, il faut nuancer parce que le sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, le contact tracing, de toute façon, ça ne s'applique qu'en stade 1 et 2. Ça s'applique pas au moment où on est en stade 3 avec confinement généralisé. Et ça ne vient, le contact tracing numérique, qu'en plus du contact tracing par interview du médecin. C'est-à-dire que quand bien même seulement 25% de la population utilise l'application, les 75% restants, s'ils sont testés positifs, on leur posera toutes les questions et ils le feront à la main avec le médecin. Ce que je veux dire par là, c'est que le contact tracing reste un des dispositifs très utiles en stade 1 et 2 pour arrêter l'épidémie. Donc en fait, peu importe le chiffre, c'est-à-dire que plus il y en a, plus c'est performant, mais pour tous les autres, ils vont quand même devoir le faire. Ils vont devoir le faire à l'oral et dans le cadre d'une interview écrite.
D'une façon ou d'une autre. L'annonce du partenariat entre Google et Apple, vous venez d'en parler, ça change quoi ?
Bon, pourquoi ces deux-là, c'est un peu particulier par rapport à tous les autres grands acteurs ? Parce que quasiment l'intégralité, on parle d'un chiffre proche de 100% des smartphones, c'est-à-dire des téléphones où on peut se connecter à Internet, sont développés sur une technologie soit de Google, soit de Apple. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils représentent quasiment 100% du système d'exploitation de nos téléphones. Le système d'exploitation Android que beaucoup de gens ont, c'est Google qui le développe. Et le système d'exploitation iOS qui est sur tous les iPhones, c'est Apple qui le développe. Donc quand ces deux-là décident de travailler ensemble, ça veut dire qu'on a tous les logiciels d'exploitation des téléphones qui travaillent ensemble. Et ils ont dit plusieurs choses. La première, que je trouve la plus intéressante, c'est que sur les couches profondes du système d'exploitation, c'est-à-dire sur ce qui interagit vraiment avec le téléphone, ils vont travailler à proposer des technologies qui vont mieux utiliser le Bluetooth et le rendre interopérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez déjà essayé d'échanger vos données entre un Android et un iPhone, et c'est assez compliqué. Si vous essayez d'avoir des applications communes entre les deux, c'est très compliqué. Là, ils ont dit qu'ils allaient approfondir cette technologie-là. Le deuxième chose qu'ils proposent, et là, moi, je suis beaucoup plus nuancé, c'est qu'ils proposent eux-mêmes de développer un service et un dispositif comme celui qu'on vient d'évoquer juste avant. Alors, là, il y a de grands débats entre les experts en leur disant « Votre utilité, c'est pas forcément que vous développiez le service, parce que les gens vont pas vous faire plus confiance qu'à leurs états, quoique. » Mais le sujet est vous pouvez quand même faciliter aux différents pays la capacité à développer ça en rendant vos systèmes d'exploitation plus ouverts et les capacités à les utiliser plus ouvertes. Parce que aujourd'hui, Android est plus ouvert que iOS. iOS, si vous êtes un développeur, vous devez respecter à la lettre chacune des capacités qui est fournie par le logiciel. Donc s'il se mobilise, c'est bien. C'est le système d'Apple qui est dans tous les iPhones. Donc si ce mobile, c'est toujours une bonne chose. Après, la question, c'est est-ce que il est souhaitable que ce soit les deux plus grands acteurs du numérique mondial américain qui soient les porteurs de la plateforme? Là, je vous apporterai une réponse plus nuancée.
Merci beaucoup, Mounir Majoubi, de nous avoir éclairé ce matin sur ce sujet.
Merci à vous.